proposé par Marcel Gaucher sur les raisons du dépérissement actuel du pouvoir. Et je vais donc essayer de le faire en sachant que c'est forcément toucher des éléments qui sont forcément sensibles pour chacun d'entre nous, donc j'espère que néanmoins ceux qui risqueraient de se sentir heurtés me pardonneront au nom de ce qui est la tentative d'apporter à ces questions quelques nouvelles hypothèses de travail. Pour commencer de façon abrupte et en essayant d'emblée de répondre avant tout autre développement à cette question, je dirais que la situation de dépérissement actuel du pouvoir à entendre comme pouvoir politique paraît liée à la conjonction de deux facteurs, un facteur individuel qui évoque facilement pour nous le talent, voire le génie d'un homme de culture récent, proche de nous, et qui a eu une grande influence dans son action de destruction de la traditionnelle figure paternelle sur laquelle prennent appui, qui sert de référence jusque-là aux diverses modalités d'exercice du pouvoir. J'évoque donc pour nous le talentueux Michel Foucault et le fait qu'il a systématiquement poursuivi dans son œuvre, je dirais, l'analyse critique et destructrice des effets des représentants de pouvoir prenant appui sur cette figure dans les divers domaines sociaux importants que nous connaissons, qu'ils soient éducatifs, médicaux, qu'ils soient judiciaires, qu'ils soient sexuels, évidemment, dénonçant donc les effets majeurs d'aliénation de cette référence vécue jusque-là comme maîtresse. Je n'évoquerai pas plus l'œuvre de Michel Foucault pour faire simplement remarquer qu'elle rencontrait sans l'analyser et sans analyser cette rencontre, qu'elle allait au-devant d'une idéologie du consumérisme et du libre-échange qui, je dirais, favorise l'accroissement des richesses par justement l'encouragement à des consommations sans restriction. Et venant donc implicitement, je dirais, contourner cette figure paternelle traditionnelle, garante, voire agent de police, comme on voudra, selon les sympathies que l'on a pour elle ou pas, garante d'une vieille, très très ancienne vertu, si c'en est une, effectivement, vous l'apprécierez à votre façon, mais enfin qui est à l'aurore de la pensée philosophique et qui s'appelle la tempérance, et dont, à vrai dire, il est clair que celle-ci n'a pas eu besoin de cette référence paternelle, la tempérance, elle n'en a eu aucunement besoin pour se faire valoir d'emblée comme étant une des caractéristiques de l'espèce humaine et comme le trait qui vient la distinguer justement de ses frères et sœurs animaux. Donc, cette rencontre dont il est possible, peut-être vraisemblable, que nous avons aujourd'hui les effets avec, je dirais, d'abord cette désertion de la place d'où s'exerçait jusque-là le commandement, c'est-à-dire le pouvoir. Avec le corps de ses représentants ordinaires, donc la désertion de cette place au profit d'une multiplication d'autorités essentiellement économiques que la mondialisation et le libre-échange protègent, mettent à l'abri du contrôle politique, du contrôle des citoyens. Donc, ce qui serait cette conjonction entre ce qu'il faudrait appeler une crise de la société politique, de l'action politique, et je crois que ce n'est pas nécessaire que j'aille l'illustrer avec les exemples récents que nous procurent les démêlés, par exemple, du président Obama avec ses élus, les difficultés qu'il peut avoir, justement, ne serait-ce qu'à essayer de faire valoir la primauté du pouvoir politique sur celui des banques, par exemple. Je n'étendrai pas, je dirais, sur ces banalités, sur ces truismes, mais qui cependant sont bien là. Et pour donc en venir à ce fait qu'aujourd'hui, aussi bien dans le registre subjectif que dans le registre collectif, nous assistons effectivement, c'est tout à fait manifeste, à une crise du pouvoir, avec les aspects très contrastés de cette crise, puisqu'elle fait coexister à la fois un appel à ce qui est son exercice plein et sans restriction dès lors qu'il s'agit de la défense d'intérêts catégoriels. Mais en revanche, je dirais sa dénonciation comme atteinte aux libertés, dès lors qu'elle s'engagerait sur le chemin qui lui est traditionnel, je dirais, de se faire valoir au sein de la collectivité elle-même. S'il fallait donner à ces assertions tellement rapides, mais que je me permets néanmoins, leur donner une assise, peut-être pourrais-je faire remarquer que finalement, du pouvoir, nous ne connaissons que deux aspects, et deux seulement. Il y en a un qui est celui qui nous est proche et manifesté par ce que sont ses représentants. La référence au pouvoir se caractérise par la présence dans le jeu social de représentants. Ça peut être, si par exemple nous avons affaire évidemment à une théocratie, ce sont bien évidemment c'est le clergé, les membres du clergé. Dans le régime démocratique, ce sont bien entendu les agents de l'État, ce sont les représentants du pouvoir, venant constituer une bureaucratie. et je ne vais pas non plus m'engager ni m'étendre sur la manière dont les effets de cette bureaucratie ont pu être analysés, voire dénoncés. En tout cas, on va dire, et ça, là, je crois que l'on avance un petit peu, que ces représentants sont les symboles d'un pouvoir qui, je dirais, par lui-même, quand il s'agit par exemple de la théocratie, où c'est le plus clair, ne figure dans aucun lieu, je dirais, de l'espace perceptif. L'espace perceptif venant se caractériser par le fait qu'il y a là, dans ce champ, dans cet espace euclidien, les représentants d'un pouvoir dont la localisation, dont le lieu d'où ça s'exerce, reste, je dirais, hors champ. Mais il y a ces circonstances, et c'est le deuxième aspect de la présence du pouvoir parmi nous, ce deuxième aspect qui est sa présence incarnée sous la forme du tyran ou du dictateur. Alors là, pas de doute sur l'endroit où il se loge, où il se situe, et il dispose à son service non plus de représentants symboliques, mais d'agents, d'exécuteurs bien réels. Différence évidemment notable entre les deux. Peut-être pour nous amuser un peu, si tant est que ça amuse, les rois étaient des représentants. Les représentants d'un pouvoir supposé divin qu'ils avaient disputé, comme vous le savez parfaitement, au pouvoir papal, et ce, au bénéfice d'un concordat, donc, qui donnait au pape le pouvoir, je dirais, de sacrer, s'il le voulait, tel ou tel roi, si cela convenait à son propre jeu, politique. Ce qui est-ce encore amusant peut-être, c'est de constater que, mais ça je suis pas certain que ce soit volontiers abordé et dit, c'est que finalement, ce qui se jouait à l'intérieur d'un groupe familial réunit habituellement ces deux formes, les deux aspects possibles du pouvoir, le représentatif et le pouvoir incarné, le pouvoir réel. Il est bien évident, en effet, que le papa était le représentant d'une autorité dont, là encore, la localisation ultime était bien difficile à préciser, mais en tout cas, il en était l'agent. Et il faut croire qu'il en recevait une inspiration immédiate, c'est toujours ce qui est merveilleux quand on assiste à la mutation, à la transformation du jeune homme, jusque-là plutôt libre d'esprit, etc., et qui va parfois un peu rapidement se trouver, se découvrir chargé de responsabilité parentale, la mutation qu'il en subit, on se dit toujours, mais d'où ça lui est venu? Il n'a pas lu des livres, hein, pour ça, des manuels du bon papa, non. Et alors voilà, ça lui vient, c'est un moment assez troublant, autant je dis bien que déléguer, on pourrait dire même fonctionnaire, si l'on veut, c'est bien d'ailleurs ce qui lui sera facilement reproché, c'est-à-dire d'avoir une parole qui est beaucoup moins subjectivement motivée que fonctionnellement ordonnée. Bien embêtant, parce que... Bref. Et puis, la maman, Alors là, je m'engage, je mets des... J'essaie de mettre vraiment des chaussons de velours pour ne pas faire trop de bruit, parce que il ne faut pas trop en parler. La maman qui est évidemment le pouvoir réel, incarné. Et de telle sorte que justement, le papa va trouver son inspiration, va recevoir ses messages de la part de ce pouvoir bien réel. Et là encore, les enfants vont être les témoins un peu attristés de la façon dont le papa devient le bras armé d'une maman qui les pilote. Mais si j'évoque cette situation, je dis bien rarement analysée comme telle, parce que je sais pas pourquoi. C'est parce que au fond, elle est exemplaire du fait que nous avons affaire, en dernier sort, que ce soit dans l'espace domestique ou que ce soit dans l'espace public, que nous avons affaire à une structure apparemment simple et qui vient s'imposer de façon, on ne parle pas immédiatement coulée de source, s'imposer, faire l'intersection entre l'espace domestique et l'espace public. Un autre trait, et qui va assurer la conjonction entre cette instance morale que l'on appelle le surmoi, et qui est évidemment l'autorité, le pouvoir subjectivement assumé, et qui va trouver sa projection immédiate dans le milieu social sur la personne du chef, sur la personne du leader. Un autre trait qui mériterait, à mon sens, d'être plus développé, c'est que ce pouvoir, dans le milieu domestique, aussi bien que dans le domaine public, forcément est toujours un. C'est une curieuse affaire. Je veux dire, le fait que ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas, c'est toujours, il est toujours et forcément unique. Et comme on le sait, les coexistences ont toujours été à l'origine de conflits pour aboutir à l'élimination de l'un ou de l'autre. Ce qui est donc, ce qui peut maintenant se ramasser en une formule, est que le pouvoir est assumé en général, et en particulier dans le milieu social, milieu public démocratique, par des représentants, représentants d'une autorité qui certes va être incarnée par un président, mais ce président étant lui-même le représentant d'un pouvoir idéal, même pas imaginé, mais représentant d'un pouvoir idéal et dont il tient l'autorité, pouvoir idéal dont on ne sait même pas s'il existe. Donc, le fait que dans notre espace, dans notre champ perceptif, les représentants d'un pouvoir dont le lieu, dont le domicile est hors champ. C'est c'est dans cet espace hors champ que se trouve donc l'instance du pouvoir réel. Il m'est déjà arrivé de faire remarquer que dans la famille romaine, l'espace domestique était hors champ. C'est curieux de dire ça. Mais il y avait une division absolument remarquable entre l'espace privé, l'espace domestique, le dieu-l'art, et puis l'espace public. Et le gardien de l'espace domestique, c'était une gardienne, la matrone, c'était elle le patron. Donc, en tout cas, ces représentants d'un pouvoir hors champ, et dont, je dirais, ce qui le supporte reste énigmatique, on sait seulement qu'il est un, qui ne peut être que un, mais, je dirais, être assuré de son existence n'est pas plus garanti que d'être assuré de l'existence divine. Alors bien sûr, et comme d'habitude, et on l'avait abordé à propos de l'amour, l'amour peut se pouvoir le faire exister et il ne s'en prive pas, puisque l'on sait que notre relation au pouvoir est forcément pathique. Autrement dit, passe parce que ce que Kant appelait les charmerailles, cette espèce de cochonnerie d'affect, c'est-à-dire le fait qu'on l'aime ou on le déteste. Et comme ce n'est pas moi qui ai besoin de vous rappeler de quelle manière cet amour et cette détestation, y compris dans les démocraties les plus avancées, n'est pas forcément justifié par les résultats et l'action politique du leader, qu'il y a là un certain nombre de facteurs qui assurément nous maintient dans un état de primitivité assez remarquable. Ce que il faut à cet endroit faire intervenir, et qui est peut-être ce que j'ai de plus difficile à vous proposer, c'est, je dirais, que ce pouvoir un situé dans cet espace réel, hors champ, il n'est pas souffert qu'il soit étranger. Ce qui est étrange, parce qu'à la fois il n'est pas identique au citoyen qui s'en appuie, s'y réfère, il n'est pas le même qu'eux, il est différent, mais quelle est cette différence, puisqu'il ne doit pas être étranger? Et que si les circonstances historiques le font étranger, on sait qu'il en résulte pour une communauté. C'est pas toujours le cas, mais enfin, le plus souvent, une grande douleur collective et qui entretient le, pas seulement pour des raisons d'oppression économique, et qui entretient le désir d'un rétablissement de ce qui devient alors la figure d'un père originaire, figure qui historiquement n'a évidemment jamais existé, bon, en tout cas, qu'il s'agit de cette occasion de restituer, et qui nous amène donc à réfléchir sur cette étrange catégorie qui fait qu'on peut ne pas être le même, et cependant ne pas être étranger, et quelle est cette catégorie alors dans laquelle se maintient cette instance une, référence, support de l'autorité. Car cette catégorie n'est aucunement visible dans le champ perceptif. Dans le champ perceptif, je sais ce qu'est la frontière. à l'intérieur d'un cercle, il y a ceux qui sont semblables, réputés tels, et puis il y a l'étranger de l'autre côté de la frontière. Et je crois, peut-être l'avez-vous déjà vous-même apprécié, que ce que l'on appelle les règles de la pensée, c'était essentiellement ce qui se supporte de l'évidence dès lors que c'est tenu par le champ euclidien, par le champ perceptif. Il y a le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant, le derrière, etc. L'antécédent, le conséquent. Bon, on est chez soi. Mais dans le cas de figure, c'est le cas de le dire que j'évoque, où le caser celui-là. Et je reprendrai ce qui m'est plusieurs fois arrivé de citer, Freud lui-même très embarrassé par cette question, puisque son bouquin qu'il voulait prophylactique, le malheureux, puisqu'il l'a écrit en 1935 et ne l'a publié qu'en 1939 à Londres, après l'avoir laissé 4 ans dans un tiroir, c'est-à-dire L'homme Moïse, roman historique, et où, au moment où se met en place et va se déferler la passion nationaliste, venir dire que le référent, ce un dont je parle, dans ce lieu qui lui est propre, ce un, tel Moïse, est étranger à son peuple, puisque du fait de, en particulier de son nom, Moses, nom égyptien, Freud, sur des arguments historiques dont on sait qu'ils ne sont pas terribles, mais en tout cas, il vient statuer le fait que l'ancêtre est hors du groupe et n'appartient pas au groupe, qu'il est autre. Il est autre. Et j'ai déjà aussi raconté qu'il m'est arrivé d'avoir des discussions avec d'éminents personnages qui me disaient, alors que c'était pas du tout leur même, que Freud c'était vraiment parfait, très bien, mais alors qu'il y a une chose qu'on ne pouvait pas lui accorder, que vraiment c'était son livre sur Moïse. Alors ça, tout d'accord, hein, le sexe, le machin, le truc, bon, d'accord, mais Moïse, alors ça non. Et cependant, ça reste évidemment un problème essentiel, et dont il se trouve que c'est à Lacan qu'il a échu de le reprendre, en partant, je dirais, d'une démonstration logique et géométrique, puisque ce qui, à mes yeux, est le vrai scandale, c'est que le problème de notre rapport au pouvoir est un problème de géométrie. Mais j'en suis pas encore tout à fait là. Donc, reprise de cette question à partir d'un rappel logique, et qui est que tout système formel ne saurait couvrir le champ de l'univers, autrement dit, laisse en place une question qui, bien posée à l'intérieur du système, n'y trouve pas de réponse. Au moins une question. Ça vaut, je ne l'évoque pas pour vous, ça vaut pour Hilbert, ça vaut évidemment pour Gödel. Autrement dit, que tout système formel, et le langage en est un spécial, mais parmi d'autres, puisqu'il est constitué d'éléments dont c'est la combinatoire qui, je dirais, ordonne leur parcours, et bien donc tout système formel laisse donc un espace qui va être caractérisé comme impossible le réel. Le meilleur de ma logique, le meilleur de mon analyse, le meilleur de ma dialectique va rencontrer un impossible. Autrement dit, tout système ici est ouvert, et ouvert sur un lieu qu'en aucun cas je ne saurais considérer comme étranger à ce système, mais qui ne lui est pas néanmoins identique, puisqu'il en dépend. Et que Lacan va appeler donc lieu autre, dans la mesure où si la psychanalyse apporte quelque chose, c'est cette affaire inouïe qui est que dans cet espace, dans ce lieu autre, il y a un peuplement de déchets, de résidus du langage, et qui vont constituer ce qu'on appelle l'inconscient. Ni plus ni moins, ce qui, à dire, à vrai dire, ne peut que paraître énorme. C'est pas un lieu inerte, c'est pas un lieu aseptisé, c'est un lieu peuplé, c'est un lieu de décharge. Une décharge, non pas publique, mais individuelle. Et le fait clinique, on en sait quelque chose par le fait que les éléments de cette décharge, avec une périodicité qui appartient à chacun, vont revenir dans son discours conscient pour actualiser le désir qu'il ne fallait pas, avec ces éléments qui ont été rejetés. Et qui, semble-t-il, ont gardé cette mémoire, mémoire de ces circonstances morales ou craintives qui ont fait que telle ou telle séquence, tel ou tel mot, telle ou telle lettre, etc., a pu être ainsi rejeté et qui va immanquablement faire retour. Avec un problème encore plus surprenant, et qui est que là où on s'attend donc à trouver un continuum littéral, sans césure, évidemment, sans syntaxe, ni orthographe, ni quoi. Simplement, un continuum littéral, eh bien, il va s'avérer que dans ce lieu autre, c'est là qu'il y a le « un » que j'évoquais tout à l'heure en tant que support réel du pouvoir, dans ce lieu autre, et dont on voit bien comment, dès lors, il peut prendre toutes les déclinaisons religieuses, politiques, voire dogmatiques, évidemment, que l'on voudra. Ceci a des conséquences, comment dirais-je, qui sont lisibles, évidemment, dans la vie des groupes, puisqu'il semblerait que notre carence d'un savoir inné qui viendrait guider notre conduite, contrairement à nos copains animaux, il semblerait que cette carence va démultiplier les modalités de référence à cet un d'exception et qui, lui, serait le bon, le juste, le vrai référent. Avec, à partir de là, toutes les guerres de religion, de ce que l'on voudra, et que l'on connaît. Avec, en outre, ce fait également, je crois qu'il nous est sensible, familier, et qui est que la possibilité de se présenter comme étant le porte-parole, l'héritier, le transmetteur cette autorité constitue un privilège qui mérite d'être socialement reconnu et célébré. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que nous restions imbibés par la religion a fait que, d'une part, bien entendu, nous avons rendu ce « un » dans le réel, responsable du caractère unaire que venait nécessairement prendre le signifiant. Ce qui caractérise un signifiant, c'est par le découpage de la chaîne sonore d'unités qui ne prennent leur autorité que de cette référence à l'O-1, et de telle sorte que, bien entendu, l'une des grandes modalités du pouvoir, c'est la mise en place des signifiants maîtres, de ceux que seraient indiscutables, et puis d'autre part, du fait du patrocentrisme qui nous est propre, le pouvoir aujourd'hui, et après cet auteur ou ces auteurs que j'évoquais tout à l'heure, mettre en cause sa responsabilité dans le mal-être général, qui consiste à devoir, en son nom à lui, adopter une identité sexuée, serait-ce à son corps défendant, devoir d'autre part accomplir dans son parcours les rôles attendus de cette identité sexuée, sachant que, par ailleurs, l'accomplissement de son exercice sera insatisfaisant. Et que, du même coup, avec cette division des sexes qu'il commande, la mise en place d'une inégalité qui peut facilement paraître intolérable. Je vous le présente comme ça, je vous le présente comme ça pour insérer ce qui est le mouvement culturel actuel dans donc cette petite histoire, puisqu'elle elle s'étend sur un laps de temps assez court, mais dont on voit bien de quelle manière, je dirais, elle vient détruire la figure traditionnelle qui était garante donc du pouvoir et qui justifie que celui-ci puisse se faire remarquer aujourd'hui par le manque de respect qui l'entoure. Le manque de respect, je crois que c'est l'un des traits de notre fonctionnement contemporain. L'irrespect. autrement dit, plus d'espace sacré. Il me semble que, en filigrane de ce que j'évoque là pour nous, on voit assez bien, en tout cas moi je le vois assez bien du fait de ma pratique, chacun ici à la sienne, les problèmes qui se posent aujourd'hui à la jeunesse. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à la jeunesse, dans la mesure où, évidemment, on s'apitoie sur les carences, les lacunes, les défauts, que cette prise à partie, je crois que la formule est bonne, amène, puisque leur défiance à l'égard du pouvoir va se traduire, comme on le sait, par un refus généralisé de ce qui peut sembler autorité, et cela n'allant pas sans quelques inconvénients. Je rencontrais il y a quelque temps un jeune et très sympathique garçon qui est champion des jeux vidéo, parce qu'il y a des championnats. Ce qui nécessite une grande rapidité d'analyse et de réaction. Beaucoup plus rapide que ce que je suis en train de vous raconter là, qui est extrêmement, extrêmement lent et lourd. Et de telle sorte qu'il se présente, tac, 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 ça va extrêmement, extrêmement vite. Il a une mobilité également très, très rapide. C'est un garçon très intelligent. Et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît ceci, c'est que c'est le rapport à cette figure organisatrice du pouvoir qu'était la figure paternelle. C'est à partir d'elle que s'organisaient les scénarios de notre existence. Et aussi bien, je dirais, les modalités conflictuelles ou pas, ou les liaisons, ou les conflits, ou les réactions sentimentales, tout l'échantillonnage des valeurs, l'honneur, la dignité, le courage. Et le fait que donc chacun de nous se trouvait ainsi, je dirais, dans sa parole même, un scénario, les éléments d'un texte, un scénario qui se trouvait là, en quelque sorte, préformé, préinscrit, chacun ayant la particularité de son interprétation. En tout cas, le texte se trouvait mis en place chez chacun. Chez ce jeune qui, donc, bien évidemment, relève d'une famille dissociée, décomposée, qui, donc, est resté dans l'affection à sa mère et à son père, bien sûr. Mais en tout cas, dès l'âge de 4-5 ans, il a connu le fait que quoi, ben que ce un supposé unir ses parents, eh bien, ce un, il n'existait pas. Il n'y en avait pas. Et donc, avec ça, il fallait se débrouiller. C'est-à-dire que, du même coup, il faisait un progrès involontaire. C'est-à-dire qu'à la question, mais ce un, est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est mon amour qui le fait tenir là-bas dans l'autre? Ben, lui, il avait une réponse qui était fournie dans la réalité, il n'y en a pas. Zéro. Et avec ça, faut tenir par soi-même. Faut tenir par soi-même. Et on ne peut donc s'autoriser que de soi-même. Mais, et c'est là, je dois dire que j'étais particulièrement accroché, mais le défaut de scénario possible préinscrit latent dans son psychisme du fait même du fait d'être désafféranté à l'endroit du grand auteur universel fait que c'est dans les scénarios des jeux vidéo qu'il trouve toutes les situations. Il trouve donc dans l'environnement, non plus dans sa subjectivité, mais dans l'environnement, il trouve toutes les situations possibles qu'organise la concurrence, le désir, la jalousie, l'appât du gain, la violence, la traîtrise, toute une série donc de valeurs, on ne peut pas les appeler autrement, qui, sans ces jeux, je dirais, le laisserait vierge. Je termine, si vous le voulez bien, ces quelques remarques. En faisant remarquer ceci. Comme on l'a évoqué au départ de ces débats, notre rapport au pouvoir est fondamentalement pathologique, puisque il entretient une permanente insatisfaction et un ensemble de conflits, je dirais, dont la diversité, dont parfois l'acuité et le caractère dramatique sont insupportables, puisqu'il y a dans l'actualité la Centrafrique. À quoi nous assistons d'autre si ce n'est justement à des conflits entre groupes dont la référence à ce père, à cet ancêtre imaginaire diffère de l'un à l'autre. Je passe sur les différences entre chrétiens, islamistes, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui est à l'œuvre. Donc, nous en sommes toujours là. Nous sommes aussi devant les effets délétères, avec cette crise du pouvoir politique face à un pouvoir économique, que sa mondialisation, c'est-à-dire son atopie, mais à l'abri des pouvoirs politiques. Nous avons donc affaire à des conséquences qui sont lourdes et dont les effets ne sont pas encore épuisés. Mais d'un autre côté, Nous avons également, je me permets de l'introduire, l'introduction d'éléments parfaitement inédits et dont il y a sûrement lieu de savoir s'ils nous permettront soit de mieux périr, soit de progresser. Est-ce qu'il est imaginable que nous puissions avoir une relation au pouvoir qui serait comment? Pour avoir une expérience immédiate de ça, il faut avoir été soit militant, soit membre d'une association psychanalytique. Et parfois les deux d'ailleurs. Alors, quand vous êtes militant, vous percevez très vite, bien entendu, toutes les ruses. C'est pas la ruse de l'histoire, hein. Ni non plus la menée triomphale vers le dépérissement de l'État, hein. Pas du tout. Mais vous êtes très vite informé sur toutes les ruses qui vont pouvoir servir à l'établissement par tel ou tel d'un pouvoir personnel. Dans le milieu, dans une association analytique, et où j'ai eu la chance de m'instruire à cet égard, c'est encore plus pur, c'est encore plus diversifié, parce que le plus souvent, c'est un combat pour rien. Ça n'a pas de conséquences. À peine honorifique. Et cependant, dans un domaine où justement se trouve radicalement mis en cause, et par Freud d'abord, et tout au long de son parcours, il a eu à souffrir, je dirais, de ses problèmes, puisque il a laissé une image de personnage autoritaire et dogmatique. Ça, je l'ai déjà raconté. J'ai eu l'avantage de rencontrer des Viennois qui le fréquentèrent, et en général tous ne manquent pas de souligner cet aspect de sa personne. Mais s'il était autoritaire et dogmatique, c'est bien parce que il fallait mettre un terme à ce qui était le conflit permanent, les tentatives permanentes de prise de pouvoir auquel il assistait, et dont évidemment Adler a été le représentant le plus ingénu, puisque pour lui c'était la volonté, le pouvoir qui était le moteur définitif de l'humanité. Alors là, au moins, il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de problème. Volonté de pouvoir. Volonté de pouvoir. Donc le plaisir de voir comment dans des milieux que l'on pourrait espérer un peu éclairés sur ces questions et donc amenés à prendre avec eux une distance qui réconcilierait avec le pouvoir. Parce qu'il en faut un. Ça ne peut pas marcher sans pouvoir. Et à titre d'anecdote, je raconte de temps en temps la manière dont ça marchait à l'époque de Lacan, à l'école freudienne de Paris. Il y avait, pour diriger l'affaire, il y avait un directoire composé d'une douzaine d'analystes et qui ont été les mêmes pendant toute la durée de l'école. Hein, il ne s'agissait pas de faire que ce poste soit l'objet significatif d'une promotion quelconque. Voilà. Il y avait des fonctions assurées, diverses. Il y avait un trésorier, il y avait un secrétaire, il y avait un responsable de l'enseignement, il y avait un responsable aux publications. Ben, il fallait remplir ces fonctions. Et donc, il y avait ce que Lacan a directement appelé, c'était pas très moderne ça, il appelait ça un directoire. Et puis il y avait Lacan. Eh bien, je peux vous dire que pendant la vingtaine d'années qu'a duré l'école freudienne de Paris, les réunions du directoire étaient mensuelles à peu près, pas une fois il n'a ouvert la bouche pour influencer la marche de l'école. Pas une fois. Et après tout, s'il y avait une leçon à en tirer, chacun pouvait tirer la leçon de ça qu'il voulait. Mais donc les divers responsables qui étaient là avec leurs tâches, etc., eh ben, allez-y, faites ce qu'il faut, à votre idée. Mais en tout cas, lui, là-dessus, pas un mot. C'était intéressant. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, je vais maintenant, si vous le voulez bien, prier Marcel Gaucher de vous faire ses critiques. Faire ses critiques et ses remarques. Et puis, il y aura peut-être du temps également pour les vôtres.
Je vais vous poser quelques questions d'éclaircissement qui sont en même temps des questions de fond, je crois. Dans, admettons, ce cadre que vous posez, qui rapporte l'effet de pouvoir dans ce qu'il a de mystérieux, à une structure logique. Donc à cette incapacité où nous sommes de bâtir des systèmes ordonnés rationnellement qui soient complets, qui ne se bouclent jamais sur eux-mêmes. En fait, on peut dire les choses dans un autre langage, tout système rationnel correspond à un découpage de la réalité qui laisse une part de la réalité en dehors de lui, de telle sorte qu'il ne peut rendre compte entièrement de ce qu'il prétend épouser dans sa compréhension. Admettons donc que cette origine, qui en effet, d'un côté, va donner cette, du point de vue de la structure psychique, puisque là on change de niveau quand on passe logique pure, puisque c'est là d'abord que cette propriété a été mise en évidence, démontrée, au psychique et au fonctionnement de l'appareil symbolique du langage. On change de niveau. Admettons que qu'on rapporte à cette structure logique cette dimension de l'inconscient qui le fait constituer de ce que vous appeliez des déchets du langage. Bien, jusque-là, je crois qu'on peut... Je vois la chose sans difficulté. La difficulté commence, et ma question est innocente, et c'est une question d'éclaircissement, lorsqu'on met aussi du même côté la racine du pouvoir, qui me semble relever, elle, d'une catégorisation très différente, puisque, en fait, dans cette perspective-là, nous parlons d'une sorte de pouvoir idéal, abstrait, à ce compte, ce pouvoir est précisément ce qui rend compte de la totalité du réel, ce qui a une prise sur la totalité du réel, à la différence, justement, des structures logiques qui sont à notre disposition. Je vois mal le lien que l'on peut faire entre la dimension déchet du langage et la dimension pouvoir. Et au demeurant, j'observe que la théorie et la pratique psychanalytique ne concernent guère que le premier volet et laissent très généralement le second dans l'obscurité. D'où le fait que l'on serait tenté de penser, sur la vue des observations que vous présentiez sur le fonctionnement des associations psychanalytiques, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'inconscient tel que nous l'appréhendons ordinairement dans le rapport au pouvoir. Parce que même des gens qui sont relativement avertis de ce qui se passe du côté de leurs ressorts psychiques les plus profonds, mettre là une des passions, des affects, des implications subjectives qui débordent toute l'espèce de rapport lucide avec eux-mêmes qu'ils sont parvenus à conquérir dans d'autres domaines. C'est ça qui me paraît intéressant, justement, dans cette exploration. Mais j'aimerais vous entendre sur l'intrication que vous établissez entre ces deux dimensions. J'ajoute une question, alors là, de fond, carrément, qui n'est pas simplement une question d'éclaircissement. S'il est vrai que c'est à une structure logique qu'il faille rapporter l'existence de ce phénomène mystérieux du pouvoir dans l'espèce humaine, il faudrait que cette place soit forcément et continuellement rempli. Nous ne pourrions vivre autrement que d'une manière ou d'une autre avec une élaboration, une institutionnalisation en bonne et due forme de cette position indispensable. Or, ce que nous observons dans la conjoncture actuelle, qui de ce point de vue-là représente quelque chose de stupéfiant, et qui n'eût pu manquer de stupéfier nos devanciers, pour qui la conjoncture présente eût été simplement inimaginable. Nous observons que cette place peut être de moins en moins remplissable, si ce n'est même, nous parlions de dépérissement du pouvoir, en passe d'être évacuée. Comment cela peut-il se faire si nous devons ancrer cette position de pouvoir dans une structure logique constitutive du psychisme humain et de son appareil symbolique? La conjoncture historique me paraît apporter une sorte de défi à cette analyse. Et alors, par ailleurs, ça m'amène à ma troisième et dernière question, qui est une question, là aussi, de perplexité, mais pouvons-nous vraiment, dans ce cas, nous contenter, pour analyser ce phénomène, de nous référer à ce qui est obvious, c'est ce que nous vivons tous les jours, le fait que de la puissance acquise par les forces économiques au regard des cadres politiques du fait de la situation de mondialisation. C'est là un ressort contingent, pas forcément durable, à l'échelle d'une histoire longue, c'est pas le dernier mot de l'histoire. J'ajoute un point très important, cette donnée ne concerne dans le monde actuel, en réalité, que deux groupes de pays sur la surface du globe. D'un côté, les pays occidentaux qui ont fait ce choix de l'ouverture au libre-échange. De l'autre côté, les pays faillis, trop faibles dans leur structure politique, pour être à même d'affronter les forces du marché mondial. Mais entre les deux se situe une gamme considérable qui représente la grande majorité de la population de la planète, ne l'oublions quand même pas, qui sont des États qui mènent le jeu économique, la Chine, l'Inde, le Brésil et quelques autres, où je ne vois pas vraiment que les forces du libre-échange mondial aient mis en cause l'autorité. Et au contraire, les forces économiques, dragons asiatiques et quelques autres, sont au service d'un renforcement des structures politiques. Il y a une dissymétrie complète dans le jeu à l'échelle mondiale des différents acteurs de ce point de vue. Mais n'importe cette analyse, je ne peux pas concevoir comment cet événement, somme toute contingent, qui relève de l'histoire du capitalisme et de certains développements sociaux du monde industriel développé, je ne vois pas comment ce phénomène historiquement contingent pourrait avoir la portée d'ébranler jusque l'organisation psychique du rapport au pouvoir des citoyens et des individus dans nos sociétés. Ça me paraît des ordres de phénomènes tellement dénivelés que là ne peut pas se trouver l'explication. Elle comporte bien quelque part un ressort interne. Alors on peut en appeler, comme vous le faisiez au début, à l'anthropologie créée par la consommation. C'est un vrai phénomène, non ? Je veux dire, c'est pas un petit phénomène. C'est même un phénomène très important et qui attend vraiment d'être analysé. Mais là aussi, le ressort me paraît un peu faible au regard de la profondeur des mobilisés du point de vue des ressources subjectives des personnes. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos objections sont, comment dirais-je, tout à fait à leur place dans ce que j'essaie d'évoquer, avec peut-être quelques remarques que je ferai concernant la façon dont, depuis l'expérience subjective, la relation au pouvoir va se reproduire ou se manifester dans le fonctionnement social. Aussi bien le mouvement de la prière que celui du sacrifice sont des témoignages de la tentative de faire exister aussi bien la prière que le sacrifice. De faire exister cette instance dont, après tout, la précarité peut être perçue. Et cette dimension, aussi bien de la prière que du sacrifice, accompagne notre culture depuis le départ. Il y a aussi cet curieux effet d'un appel perçu, je dirais, par ce qui serait cette... je sais pas... nous angoisser dans une soirée si agréable, cet appel perçu de la part de l'autre quant à justement ce que cet appel générateur d'angoisse sur ce que j'aurais à fournir pour justement assurer sa subsistance, si je puis dire. Moi, il m'est arrivé de dire que, je vous le dis comme ça, hors micro, que...
Ah non, hors micro.
Que Dieu est le premier des mendiants. Donc, on voit bien comment cette ou encore ce qui là à des niveaux cliniques, je dirais élémentaires, primaires, peut-être la recherche par l'enfant de l'autorité dans l'entourage familial ou autre, parfois enseignant, nous savons tous ça, susceptible justement de le conforter à cet égard. Il y a donc bien là une précarité, je dirais, de cette instance, et dont nous aurions bizarrement, la charge. Voilà, que nous serions chargés, en quelque sorte, de nourrir ce type d'ogre, ce qui est bizarre quand même. Bon, ben, il le faisait, hein, puisqu'il balançait les jeunes comme ça, etc. Maintenant, la question également très délicate que vous avez posée concerne la façon dont ces déchets du langage seraient susceptibles, en quelque sorte, comment viendrait-il baigner les pieds de l'idole, n'est-ce pas, dont nous aurions à nous féliciter. Voilà. Le fait est que, et là encore, c'est un apport de la psychanalyse qui mérite, qui est assez révoltant pour être relevé, c'est que les effets de ces déchets du langage, lorsqu'ils reviennent dans la parole, dans le discours effectif, sont des effets de pouvoir absolu. Autrement dit, comme si dans le conflit psychique venaient s'opposer les représentants du pouvoir, les signifiants, on va dire, de la raison, et qui s'autorisent justement de lui, mais en tant que représentants, et qui viennent en quelque sorte freiner, restreindre, discuter, ne pas vouloir, je dirais, ce qui vient là se manifester. Et puis la force qui là agit non plus par des représentants à partir de l'inconscient, mais par les éléments réels qui supportent ces pulsions ou ces pensées que l'on voudra. Il y a chez Freud, à un moment donné, c'est dans l'analyse de l'Homora, cette très curieuse assertion: l'inconscient, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous. C'est formidable. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous, au sens que c'est ce qui a été rejeté, évidemment, par les commandements moraux, et qui, au dépit, je dirais, du locuteur, lui revient comme ça, mais avec une force qu'il n'avait pas lorsqu'ils étaient banalement dialectisés. D'ailleurs, venant s'imposer comme pouvoir, non plus donc représenté, c'est plus un pouvoir représentatif, mais un pouvoir tyrannique réel. Et comme si on avait donc là le modèle, une espèce de, on va pas dire d'équilibre des pouvoirs, mais le déséquilibre des pouvoirs, et dont nous faisons les frais, c'est-à-dire la lutte consciemment organisée contre ce qui peut venir et qui ne plaît pas ou paraît abominable, etc. Le problème délicat, c'est le fait que dans ce continuum littéral, d'une chaîne littérale ou d'un tissu littéral continu, il y ait du 1. Alors, faut-il y voir